La bibliothèque est témoignage de la vérité et de l'erreur, déclara donc Iorgé. Indubitablement, Apulée de Madaure eut une renommée de magicien, dit Guillaume. Mais cette fable contient sous le voile de ses fictions une bonne morale aussi, parce qu'elle enseigne combien il en coûte de se tromper. Et en outre, je crois que l'histoire de l'homme transformé en âne fait allusion à la métamorphose de l'âme qui tombe dans le péché. Il se peut, dit Iorgé.
Mais alors je comprends maintenant pourquoi Vénantius, au cours de cette conversation dont il me parla hier, portait un tel intérêt au problème de la comédie. De fait, les fables de ce type-là aussi peuvent être assimilées aux comédies des antiques.
L'une et l'autre ne racontent pas l'histoire d'hommes qui existèrent vraiment, comme les tragédies, mais, dit Isidore, sont des fictions.
Fabulae poetae a fando nomina verunt, quia non sunt rest factae sed tantum loquendo fictae.
Tout d'abord, je ne compris pas pourquoi Guillaume s'était engagé dans cette docte discussion, et précisément avec un homme qui paraissait ne pas goûter fort de semblables sujets. Mais la réponse de Iorgé me dit combien mon maître avait été subtil.
Ce jour-là, on ne discutait pas de comédie, mais seulement du caractère licite du rire, dit Iorgé en s'assombrissant.
Et de mon côté, je me rappelais parfaitement que quand Vénantius avait mis sur le tapis cette discussion, pas plus tard que la veille, Iorgé avait affirmé ne point s'en souvenir.
Ah, laissa tomber Guillaume avec négligence. Je croyais que vous aviez parlé des mensonges des poètes et des énigmes subtiles.
On parlait du rire, dit Iorgé d'un ton sec. Les comédies étaient écrites par les païens pour pousser au rire les spectateurs, et ils faisaient mal. Notre Seigneur Jésus-Christ ne raconta jamais de comédies, ni de fables, mais de limpides paraboles seulement qui nous instruisent allégoriquement sur la façon de mériter le paradis, et ainsi soit-il.
Je me demande, dit Guillaume, pourquoi vous êtes tellement contre la pensée que Jésus ait jamais ri?
Moi, je crois que le rire est une bonne médecine, comme les bains, pour soigner les humeurs et les autres affections du corps, en particulier la mélancolie.
Les bains sont une bonne chose, dit Iorgé. Et le docteur Angélique lui-même les conseille pour chasser la tristesse, qui peut être passion mauvaise quand elle ne s'adresse pas à un mal qui se puisse éloigner par l'audace. Les bains restituent l'équilibre des humeurs. Le rire ébranle le corps, déforme les linéaments du visage, rend l'homme semblable aux singes.
Les singes ne rient pas. Le rire est le propre de l'homme, et le signe de sa rationalité, dit Guillaume.
La parole aussi est le signe de la rationalité humaine, et avec la parole on peut blasphémer Dieu. N'est pas nécessairement bon tout ce qui est le propre de l'homme. Le rire est un signe de sottise. Qui rit ne croit pas en ce dont il rit, mais non plus ne le est. Or donc, le rire du mal signifie ne pas se disposer à le combattre, et rire du bien signifie méconnaître la force avec laquelle le bien se propage par sa propre vertu. C'est pourquoi la règle dit « Decimus humilitatis gradus est si non sit facilis ac promptus in resu, quia scriptum est. Stultus in resu exalta vossem suam ».
Quintilien, interrompit mon maître, dit que le rire est à réprimer dans le panégyrique par dignité, mais qu'il faut l'encourager dans beaucoup d'autres cas.
Tacite loue l'ironie de Calpurnius Pisson.
Pline le Jeune écrivit « Aliquando preterea rideo, iocor, ludo, homo sum ».
C'était des païens, répliqua Iorgé. La règle dit « Scurrilitates vero, vel verba otiosa ». Et risum movienta aeterna clausura in omnibus locis damnamus, et ad talia eloquia discipulum aperire os non permittimus.
Cependant, quand déjà le Verbe de Christ avait triomphé sur la terre, Synésios de Cyrène dit que la divinité a su combiner harmonieusement comique et tragique. Et Élius Partien dit de l'empereur Adrien, homme demeuré élevé et d'esprit naturalitaire chrétien, qu'il sut mêler des moments de gaieté, des moments de gravité. Et enfin, Ozone recommande de doser avec modération le sérieux et le plaisant.
Mais Paulin de Nol et Clément d'Alexandrie nous mirent en garde contre ces sottises. Et Sulpice Sévère dit que jamais personne ne vit Saint-Martin ni en proie à la colère, ni en proie à l'hilarité.
Il rappelle pourtant de la part du saint plusieurs réponses « spiritualiter salsa », dit Guillaume.
Elles étaient promptes et savantes, pas risibles. Saint Ephrem a écrit une parenèse contre le rire des moines. Et dans le De Habitu et Conversatione Monachorum, il recommande d'éviter obscénité et saillie comme le poison des aspics.
Mais Hildebert dit
admittenda tibi iocasunt posta seria quedam, sed tament et dinis ipsa gerendamodis?
Et Jean de Salisbury a autorisé une modeste hilarité. Et enfin, l'ecclésiastique, dont vous avez cité le passage auquel se réfère votre règle, où l'on dit que le rire est le propre du sot, admet au moins un rire silencieux, celui de l'esprit serein.
L'esprit n'est serein que lorsqu'il contemple la vérité et se plaît au bien accompli, et ne se rit de la vérité ni du bien. Voilà pourquoi Christ ne riait pas. Le rire est source de doute.
Mais parfois il est juste de douter.
Je n'en vois pas la raison. Quand on doute, il faut s'adresser à une autorité, aux paroles d'un père ou d'un docteur, et toute raison de douter cesse. Vous m'avez l'air bien imprégné de doctrines discutables, comme celle des logiciens de Paris. Mais saint Bernard sut intervenir à bon escient contre Abélard le châtré, qui voulait soumettre tous les problèmes à l'examen froid et sans vie d'une raison dénuée de la lumière des Écritures, en prononçant son « c'est ainsi et ce n'est pas ainsi ». Certes, si quelqu'un accepte ces idées fort périlleuses, il peut aussi apprécier le jeu du sot, qui rit de cela, dont on doit seulement savoir l'unique vérité, qui a déjà été dite une fois pour toutes. Or, en riant, le sot dit implicitement « Deus non est ».
Vénérable Iorgué, vous me paraissez injuste quand vous traitez Abélard de châtré, car vous savez qu'il encourut une aussi triste condition à cause de la mauvaiseté d'un autre.
À cause de ses péchés, à cause de son orgueil placé dans la confiance en la raison de l'homme. Ainsi, la foi des simples fut moquée, les mystères de Dieu furent sondés, du moins on le tenta, des sots le tentèrent. Des questions qui concernaient les choses suprêmes se virent témérairement traitées. On rit des pères parce qu'ils avaient jugé bon que de telles questions fussent plutôt mises sous le boisseau qu'exposées.
Je ne suis pas d'accord, vénérable Iorgué. De notre part, Dieu veut que nous exercions notre raison sur les nombreuses choses obscures où l'Écriture nous a laissé libres de décider. Et lorsque quelqu'un vous invite à croire à une proposition, vous devez d'abord examiner si celle-ci est acceptable. Car notre raison a été créée par Dieu, et ce qui agrée à notre raison ne peut ne pas agréer à la raison divine, sur laquelle d'ailleurs nous savons seulement ce que, par analogie et souvent par négation, nous en inférons à partir des démarches de notre raison. Et alors, vous voyez que parfois, pour saper la fausse autorité d'une proposition absurde qui répugne à la raison, le rire aussi peut être un instrument juste. Souvent, le rire sert même à confondre les méchants et à faire briller leur sottise. De Saint-Maur, on raconte que les païens le mirent dans de l'eau bouillante et qu'il se plaignit que le bain était trop froid. Le gouverneur païen trempa sottement sa main dans l'eau pour vérifier et il se brûla. Belle action de ce saint martyr qui ridiculisa les ennemis de la foi.
Iorgué ricana. Même dans les épisodes que racontent les prédicateurs, on trouve beaucoup de contes à dormir debout. Un saint plongé dans l'eau bouillante souffre pour Christ et retient ses cris. Il ne joue pas des tours d'enfant aux païens.
Vous voyez, dit Guillaume, cette histoire vous paraît contraire à la raison et vous l'accusez d'être ridicule. Fût-ce tacitement et en contrôlant vos lèvres, vous êtes en train de rire d'une histoire et vous voulez que de mon côté, je ne prenne pas cette histoire au sérieux. Vous riez du rire, mais vous riez.
Iorgué fit un geste d'agacement. En jouant sur le rire, vous m'entraînez dans de vains propos, mais vous savez bien que Christ ne riait pas.
Je n'en suis pas certain. Quand il invite les pharisiens à jeter la première pierre, quand il demande de qui est l'effigie sur les pièces à payer en tribut, quand il joue sur les mots et dit « Tu es Pétrus », je crois qu'il s'agissait de pointe pour confondre les pécheurs, pour soutenir le courage des siens. Il fait de l'esprit quand il dit à Caïphe « C'est toi qui l'as dit ». Et Jérôme, commentant Jérémie, là où Dieu dit à Jérusalem « Nudavi femora contra faciem tuam », explique « Sive nudabo et relevabo femora et posteriora tua ». Même Dieu s'exprime donc avec de bons mots pour confondre ceux qu'il veut punir. Et vous savez parfaitement qu'au moment le plus ardent de la lutte entre clunistes et cisterciens, les premiers accusèrent les seconds pour les rendre ridicules de ne pas porter de braies. Et dans le Speculum Stultorum, on raconte que l'âne Brunel se demande ce qui arriverait si la nuit le vent soulevait les couvertures et que le moine vit ses pudenda. Les moines autour de nous se mirent à rire et Iorgué devint furieux.
Vous êtes en train de traîner ses frères à une fête des folles. Je sais qu'il est d'usage parmi les franciscains de gagner la sympathie du peuple avec des idioties de ce genre. Mais de ces jeux frivoles, je vous dirai ce que dit un mot que j'entendis prononcer par un de vos prédicateurs.
tum podex carmen ex tulit horridulum. »
La réprimande était un peu forte. Guillaume avait été impertinent, mais à présent, Jorge l'accusait de lâcher des pets par la bouche. Je me demandais si cette réponse sévère ne devait pas signifier une invitation de la part du moine âgé à sortir du scriptorium. Mais je vis Guillaume, si combatif un instant plus tôt, se faire doux comme un agneau.
« Je vous demande pardon, vénérable Jorge, » dit-il. « Ma bouche a trahi mes pensées. Je ne voulais pas vous manquer de respect. Sans doute, ce que vous dites est juste, et j'étais dans l'erreur. »
Jorge, devant cet acte d'exquise humilité, émit un grognement pouvant aussi bien exprimer la satisfaction que le pardon, et il n'eut d'autre issue que de regagner sa place, tandis que les moines refluaient vers leur table de travail qui, au cours de la discussion, s'était peu à peu approchée. Guillaume s'agenouilla de nouveau devant la table de Vénantius et se remit à fouiller dans ses parchemins. Avec sa réponse d'une grande humilité, il avait obtenu quelques secondes de tranquillité. Et ce qu'il vit pendant ces secondes inspira ses recherches de la nuit. Mais ce furent vraiment quelques secondes. Bensé s'approcha aussitôt en feignant d'avoir oublié son stylet sur la table quand il s'était joint aux autres pour écouter la conversation avec Jorge, et il murmura à Guillaume qu'il devait lui parler d'urgence, lui donnant rendez-vous derrière les balnéas. Il lui dit de s'éloigner le premier, qu'il le rejoindrait sans tarder. Guillaume hésita un instant, puis il appela Malachi, qui de sa table de bibliothécaire près du catalogue avait suivi tout ce qui était arrivé, et le pria en vertu du mandat reçu de l'abbé, et il souligna beaucoup ce privilège, de placer quelqu'un à la garde de la table de Vénantius, parce qu'il jugeait utile à son enquête que personne ne s'en approchât durant le jour entier jusqu'à ce qu'il pût revenir. Il le dit à voix haute, car ainsi il engageait non seulement Malachi à surveiller les moines, mais les moines eux-mêmes à surveiller Malachi. Le bibliothécaire ne put qu'acquiescer et Guillaume s'éloigna avec moi. Tandis que nous traversions le jardin et nous dirigions vers les balnéas qui se trouvaient adossés au bâtiment de l'hôpital, Guillaume observa
« On dirait qu'il déplaît à beaucoup que je mette les mains sur quelque chose qui se trouve sur ou sous la table de Vénantius. Et qu'est-ce que cela pourrait bien être ? J'ai l'impression que ceux à qui cela déplaît ne le savent pas eux-mêmes.
Bensé n'a donc rien à nous dire et ne fait que nous attirer loin du scriptorium ?
C'est ce que nous saurons tout de suite, dit Guillaume. Peu après, en effet, Bensé nous rejoignit.